C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, vendredi, c'est le moment de déposer les rapports des commissaires et c'est Luc qui amorce la discussion. Vas-y donc.
Ben, un sinistre individu du nom de Marcus Niméri s'est fait attraper par les policiers. Il possédait, il avait sur lui une man's purse, c'est-à-dire une sacoche d'homme. Et les policiers ont trouvé dans cette sacoche $5,000 en argent comptant et une arme. C'était une sacoche de marque Givenchy. L'avocat de M. Niméri a essayé de plaider que ce sont les gens racisés, noirs ou arabes, qui sont plus susceptibles de porter des man's purse et donc qu'il n'aurait pas dû être arrêté par les policiers. David Leclerc fait, avec cette tentative-là, ridicule, qui a été tournée en ridicule d'ailleurs par Galiastatos, le juge Galiastatos, il fait ombrage à la vraie lutte contre le profilage racial ou contre le racisme en se servant d'une tentative d'appeler raciste une décision qui a rien à voir avec la réalité, là. Que les sacoches seraient plus portées par les Noirs et les Arabes. Voyons donc. Voyons donc. Puis par ailleurs, ce qu'on sait, c'est que souvent, les gens qui... c'est pas tous les gens qui portent une sacoche qui ont un pistolet dedans, non. Mais que les gens qui veulent cacher un pistolet se servent souvent de ce type de sacoche. Alors, comment ça se fait que l'avocat qui pense défendre le droit et la justice se permet... se permet un écart comme celui-là. On a une tentative tout azimut pour défendre son client, par ailleurs pris sur le fait. Et ça me rappelle la décision des avocates qui défendent la tentative des avocates qui défendaient Marc-André Grenon, qui est le criminel de Guylaine Potvin, là, cette jeune femme du Saguenay qui avait été assassinée ce triste individu, violent, crime sexuel, puis après ça un assassinat. Alors, les avocates avaient tenté de dire, puis là on va nommer leur nom, là, c'est maître Karine Poliquin notamment qui avait fait cette déclaration-là, avait tenté de dire que oui, l'accusé avait laissé des traces d'ADN sur la victime. Oui, il avait abusé de son corps, mais était morte au moment où il est arrivé. C'est pas lui qui l'avait tué. La police n'avait aucune preuve que c'est lui qui l'avait tué. Hey, quand t'es rendu à des défenses comme celle-là, là.
Mais Luc, chaque avocat de la défense a droit à sa stratégie, choisit sa stratégie. Ben, le défi, c'est de convaincre le juge que les arguments utilisés, tu comprends-tu, sont les bons.
Je sais bien, mais quand t'es rendu dans ces extrêmes-là, là. Je pense que ce que tu démontres, c'est que tu t'intéresses pas à la justice. Tu t'intéresses juste aux revenus que va t'apporter ta profession.
Un juge m'a raconté un jour que l'avocat qui plaidait devant lui disait des imbécilités. Et je l'ai laissé aller pendant un bout de temps. Puis à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, ce que vous dites, maître, c'est tout à fait ridicule. Ça ne tient pas la route. Réponse de l'avocat, je le sais, mais laissez-moi terminer.
Oui, il est honnête, écoute.
Il est très honnête.
Oui, ben oui, effectivement.
Ah, d'ailleurs, Luc, je ne sais pas combien ça coûte une sacoche pour homme Givenchy.
Moi non plus, j'ai pas magasiné ça récemment, mais je pense que
ça doit coûter quelques sous.
Coupe de 1000, ça c'est sûr. Hein.
Ouais.
La ministre Biron tient absolument à ouvrir sa maudite, son bureau du Québec à Tel Aviv. Et hier, en défense de cette décision inique, le ministre de l'énergie, entre autres choses, économie, énergie, je sais plus, ministre de toutes, Fitzgibbon, a déclaré, la situation est revenue à la normale en Israël. Donc, c'est le temps d'investir.
Il a dit ça pour vrai?
Oui.
Hein?
Oui.
Voyons.
Parce que la croissance économique, les échanges, je sais pas, il trouve que c'est revenu à la normale. Je lui signale à M. Fitzgibbon que la situation est aussi revenue à la normale en Russie. Là, il y a eu un article cette semaine qui faisait état du fait que la Russie avait eu une croissance économique plus élevée que l'ensemble des pays de l'OCDE cette année. Donc, la situation est revenue à la normale en Russie et en Israël. Et donc, j'en reviens pas, moi. Est-ce qu'il y a un tin bits à la place du cœur, un tin bits avec de la gelée de fraises? Parce que ce qui se passe en ce moment, dénoncé par l'ONU, par Médecins sans frontières, par Amnesty International, par toutes les organisations internationales qui sont allées sur les lieux, et qui, il n'entend pas le petit bruit dans les universités américaines en ce moment, le petit bruit de criquet dans les universités américaines en ce moment. Non, la situation est revenue à la normale. Mais c'est quoi ça? Moi, je veux pas être dirigé par des gens comme ça. Je veux pas que mon pays ait l'image de ces gens-là. auprès de la communauté internationale. Ce qu'on est en train de faire, ce qu'il est en train de faire avec leur insensibilité extraordinaire, c'est nous catégoriser dans une case où on ne devrait pas être. On devrait être un pays de la paix d'une part, de la sollicitude, de l'empathie. On peut pas prendre des décisions comme celle-là. Puis ça va nous rapporter quoi? Ouais. Ça va nous rapporter quoi d'attendre un an? Ça serait quoi le coût d'attendre un an de plus? Je sais qu'il y a beaucoup d'innovation en Israël. C'est un pays très innovateur, beaucoup d'entrepreneurs. Il y a un intérêt à avoir des échanges économiques avec Israël. Je comprends tout ça, mais pas maintenant.
Mais tu poses la bonne question. D'ailleurs, on peut se demander qu'est-ce qui se cache derrière cet empressement du gouvernement d'ouvrir leur bureau du Québec à Tel Aviv. Qu'est-ce qui presse tant?
Moi, je pense que ce qui se cache derrière ça, c'est un tin bit.
Non, mais Pierre Fitzgibbon semble mettre beaucoup de pression sur la ministre Martine Biron. Puis peut-être que ma lecture des choses n'est pas la bonne, mais on se demande tous pourquoi c'est si important. Il me semble qu'il y a d'autres priorités au gouvernement que ça, là.
Mais tu sais, sa grande sensibilité à M. Fitzgibbon qui lui avait permis de déclarer qu'il n'y a pas besoin de BAP pour Nordvolt parce qu'il y a juste des grenouilles à trois yeux. Cette sensibilité-là, absente de son discours en toute chose, en fait pas un bon politicien. C'est pas un politicien, c'est quelqu'un qui doit sentir un peu l'air du temps puis prendre des décisions en fonction de l'air du temps, pas tout le temps renvoyer du revers de la main toute situation, tout contexte qui fait pas son affaire. Ça m'écœure. Je suis en dehors de moi-même de voir ça. Écoute, on fait partie de l'ONU quand même. À ce jour, on n'a pas déclaré que le Québec était soustrait aux analyses, aux décisions de l'ONU. Mais le secrétaire général de l'ONU nous dit qu'on est dans une situation extraordinairement toxique, que jamais peut-être dans les dernières décennies, on a été dans une situation comme celle-là. Mais pas pour Fitzgibbon, puis pas pour Biron. Par ailleurs, la ministre du Tourisme est satisfaite des efforts qui ont été faits pour lutter contre les Airbnb. Il y aurait 20% des Airbnb qui auraient disparu ou seraient devenus légaux. Mais ça sent avec, ça me surprend. C'est comme une façon de revoyer du revers de la main une situation en disant il n'y a pas de problème. Comment il n'y en a pas de problème? La résidence principale, dorénavant, tu n'as le droit de louer que ta résidence principale. La ville demande, on peut-tu avoir une analyse qui permet de dire si c'est vraiment la résidence principale ou pas, parce que tous les dossiers achoppent sur cette question-là. Et on n'est pas capable de faire cette liste-là, puis on n'est pas capable d'inspecter, puis de contraindre les gens qui trichent. Mais tout va bien. Tout va bien.
Est-ce que vous saviez là, que si vous louez votre résidence secondaire ou votre chalet, là, maintenant, vous allez être votre propriété va être considérée comme un immeuble commercial. Donc, votre compte de taxes va tripler ou même quadrupler et la mesure est rétroactive. J'ai parlé au maire de Gaspé cette semaine. Là, il y a des propriétaires qui viennent recevoir 16 000 $ de compte de taxes parce qu'ils font de la location via genre Airbnb.
Des plateformes, là.
Exactement. Mais comme c'est une activité dite commerciale, le statut de leur propriété vient de changer sur
et
le plan fiscal.
Totalement, Nathalie.
Oui, et lorsque tu la vends. C'est majeur et c'est fondamental. Là.
Oui, et lorsque tu la vends, tu dois facturer la TPS, la TVQ. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'arrive. Moi, j'ai loué mon chalet quelques semaines par année. Je me suis inscrit dûment au ministère du Revenu. Et puis, c'est les conséquences que tu viens
de... Il n'y a pas un minimum de journées de location, j'imagine que oui. Si tu loues, mettons...
Non, parce que c'est le permis qui change. C'est ta demande de...
OK, j'ai un chalet, là, je loue deux fois dans l'été, puis je suis une entreprise.
Oui. Moi, je l'ai loué cette semaine, puis je suis déclaré entreprise.
Oui, tout à fait.
Ouais. Oui. On s'arrête là-dessus et au retour, rapport de Nathalie.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, Nathalie.
Oui, l'étoile de la semaine, et j'ai nommé, mesdames et messieurs, Ricardo Larrivée. Ricardo, qui était notre commissaire. Eh non, mais quelle performance! Moi, j'étais complètement subjuguée par ses arguments, la qualité de ses arguments, la passion, la fougue qu'il a utilisée pour s'exprimer, extrêmement rafraîchissant, lucide, percutant. Et Paul, je t'annonce, nous t'annonçons, Luc et moi, qui vient de s'acheter une carte chouchou pour notre émission de l'automne.
Bon. Parfait, c'est réglé.
Ben oui, c'est réglé.
Il était vraiment très bon. Puis, comme tu dis, communiquer quelque chose, c'est une chose, mais y ajouter de l'engagement, parce que lui, il a fait preuve d'engagement. Là, c'est pas juste une idée sortie de sa tête. Là, il s'est impliqué personnellement, bénévolement, et puis de passion, puis de vision, puis de persévérance. Tout ça, c'est ça. Hein, c'est là que résident les grandes solutions de l'avenir.
Non, mais il y a des choses à dire. C'est ça que je trouve fantastique. Ah oui, et tu sais, Ricardo, il est associé à la cuisine, à la nourriture, mais ce gars-là a une vision de la société qui est absolument fabuleuse. Mm. Comment tu as trouvé ça, ton expérience, Paul?
Très bien. Oui, très bien, Drano. J'ai fait quelques fois qu'on parle, évidemment, quand il vient en entrevue de ses projets et tout ça, mais le Lab École, par exemple, ouais. Ça permet de ouvrir les horizons un peu.
Exactement. Pendant que les partisans de hockey de Salt Lake City se réjouissaient de l'arrivée des Coyotes de l'Arizona, ben nous, on se contentait de miettes, mesdames et messieurs. Mais on a appris en commission parlementaire cette semaine que le ministre des Nordiques, M. Girard, a déjà fait un premier chèque à M. Québécois, M. Pelladeau, 2,5 millions déjà de versés sur la subvention de 5 à 7 millions. Il y a un deuxième 2,5 millions qui va être versé 30 jours avant l'événement, qui doit se tenir le 9 septembre prochain. Mais la question qui tue, Marc Tanguay l'a posée. Il y a une petite hésitation dans la salle, mais est-ce qu'on doit payer pour l'alcool et les repas des joueurs des Kings de Los Angeles? Il y a eu une petite hésitation, on savait pas. On a pris ça en délibéré quelques minutes, puis finalement, on est revenu au micro pour confirmer que non, on ne paierait pas pour la boisson.
Mais tu sais qu'il y a beaucoup de joueurs de hockey qui sont cheap. Hein?
Ah oui?
Ça aurait pu devenir un enjeu.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben...
ils veulent pas payer? Ah, des noms.
Non, pas des noms, mais il y a un dicton qui dit, puis pas juste des journées de sport aussi, de temps en temps, nous paierons seulement s'il le faut. Là. C'est,
Ah, mais les joueurs, Paul, c'est parce qu'ils ont de l'argent, les joueurs de la Ligue nationale.
Oui, mais il y en a qui peuvent très bien naviguer à travers la location du jour. Puis,
le perdième.
C'est un petit peu ça.
Moi, un jour, j'ai interviewé un Asiatique qui parlait très mal le français et l'anglais. C'est pour ça que je mentionne qu'il était Asiatique. Puis il avait toute sa vie été portier à l'hôtel Bonaventure. Puis j'ai demandé de me parler de sa vie, puis on avait une discussion limitée à cause de la langue. Puis il m'avait dit, Cournoyer, $10 tips. La Fleur, $8 tips. Bossy, $5, $10. The other guy, he gave me a stick, $45 value.
Extraordinaire. Ouais. Non, mais on en sait plus sur le monde du hockey ce matin. Ouais. Moi, je savais pas. Je pensais qu'il était tout généreux. C'est merveilleux joueur de hockey. Après s'être fait rouler dans la farine par les dirigeants des grandes bannières, notre très dynamique ministre de l'Industrie du Canada, François-Philippe Champagne, ne lâche pas le morceau et revient à la charge. Vous avez peut-être vu cette nouvelle passer. Il souhaite maintenant s'attaquer à la réduflation en s'inspirant de la France et de sa grande chaîne Carrefour.
Action, action, action.
Oui, action, voilà, action, toujours. Action, en monsieur mouvement. Le ministre. En mouvement, tout à fait. Il veut obliger les bannières à coller des étiquettes en épicerie pour viser les produits qui sont
ce que la France
visés.
Fait, là, actuellement.
Oui, tout à fait. Mais lui, ce qu'il dit, il va obliger les bannières. Elle dit, ben là, tu vas mettre une étiquette sous le chip de Doritos parce que, sous le sac de Doritos parce qu'on sait qu'il y a moins 25% dans le sac. Moi, je pense qu'il va faire face à la même résistance à laquelle il a fait face lors de sa première démarche. Moi, ça ressemble une opération kamikaze, plus qu'autre chose. Puis je me dis, mais pourquoi, là? Pourquoi? Est-ce que ça va t'influencer, un, nos habitudes de consommation? Et deux, pour faire ça encore, faut-il que tu vises les produits qui, tu sais, tu comprends, qui, eux, se retrouvent en quantité moindre?
Mais Statistique Canada a déposé hier des chiffres qui montrent qu'à la grandeur du pays, là, puis ça inclut le Québec, évidemment, là, la part des achats alimentaires chez Walmart et Costco, ça explose.
Ouais.
Et rajoute de l'or à mât, là, puis rajoute le tigre géant.
Oui, oui.
Il y a encore des gens qui vont au supermarché traditionnel. C'est encore une majorité. Mais vraiment, les achats, ça se passe, ça fait longtemps, le Costco, mais c'est de plus en plus ça. Mm. Parce que les rabais sont là, parce que les gens peuvent acheter des plus gros formats, puis Walmart, c'est un peu la même affaire.
Amis,
mais tu sais, quand tu dis, je vais aller chercher de la concurrence internationale, là, elle est déjà pas mal en place.
D'une part, puis on est un petit marché, d'autre part. Puis l'autre chose, n'oubliez pas qu'il y a tellement de monde qui magasine les spéciaux, là, c'est l'enfer. Là. C'est devenu, en fait, une façon de faire ton épicerie, là. Les spéciaux, les circulaires, les applications, etc. Etc., etc. Mais je pense qu'il va encore faire face à la résistance des bannières parce que ça prend une base de données pour faire ça. Tu comprends? Mais, et puis les bannières, est-ce qu'elles vont viser leurs distributeurs puis leurs fournisseurs? Enfin, il y a beaucoup de questions autour de cette démarche. Une ministre prise la main dans sa sacoche. Avez-vous vu les images à TVA circuler? La ministre que tu as reçue en entrevue, Geneviève Guilbeault. Moi, je suis renversée par ce que j'ai vu. Ça dure au moins une minute. C'est Joël Arsenault, un crédit, qui lui pose des questions sur le mandat de CDPQ Infra. Est-ce que c'est un mandat payant, etc.? Est-ce que, bon... Et là, elle lui répond, puis elle fouille dans une grosse sacoche, là. Elle bardasse dans sa sacoche, puis le visage dans sa sacoche pendant qu'elle lui répond, là. Écoute, moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie.
Je lui ai posé la question tantôt.
Oui, puis, réponse?
D'abord, elle dit qu'elle traîne peu de documents, puis quand elle en a, c'est dans sa sacoche.
Ah, c'est pas vrai. Non, non, je suis certaine. Pas à l'écoute. Non, elle cherchait pas. Elle cherchait, d'après moi, ça valait plus d'un rouge à lèvres qu'elle cherchait, ou je sais pas quoi, là. Non, c'était pas un document. Là.
Moi, je veux pas me lancer là-dedans. Moi, je fais que signaler la réponse. La réponse, c'est ça. Puis que deux, elle a quand même répondu au député Arsenault. Puis que c'était un document qu'elle cherchait.
La ministre ressemble à une récidiviste. Non, mais c'est vrai, écoute, elle s'est amusée avec les jeux de mots en étude de crédit, rappelez-vous. Là,
oui, oui, fougère, là.
Oui, ben là, elle a sorti une autre expression hier que je connaissais pas. Après ça, la ceinture de sécurité qu'elle n'attachait pas. Ah, ben j'ai oublié. Ben oui, moi, excusez-moi, mais je trouve que ça manque totalement de respect pour ses collègues députés, pour l'exercice qu'est l'étude des crédits. Tu sais, une fois, ça peut passer. Deux fois, trois fois, là, c'est ordinaire. Vous trouvez pas ça, vous autres, ordinaire?
Ben moi, je pense que si on accorde de l'importance à ces petits gestes-là, c'est parce que on tente de déceler la vraie personnalité d'une personne à travers les petits gestes, parce qu'on l'aura pas à travers ses déclarations. T'sais, en politique, tout est tellement structuré comme message. Et donc, on scrute les gestes. T'sais, moi, quand j'avais dormi au conseil, ça révélait quand même quelque chose sur mon appréciation au conseil. Enfin, je signale encore que je n'avais pas dormi. J'avais fermé les yeux en espoir de dormir.
Ça, je peux confirmer parce que tu fais ça ici. Tu arrives à t'assoupir.
Oui, ben j'essayais de dormir.
Mais c'est vrai que c'est plate, le conseil municipal.
La mairesse qui signe de Montréal, la mairesse qui signe, c'est BD durant la séance du conseil municipal.
C'est ça, ces petits gestes-là témoignent de quelque chose.
Ben oui, c'est ça.
Mais bon, donc, c'est pas vrai que c'est complètement innocent. En même temps, on fait un peu mémère de les suivre puis d'en parler autant. Ça fait pas de nous des journalistes.
La description qu'elle m'a faite tantôt du ministère des Transports puis des agences puis de t'écoutes ça comme contribuable, tu te dis, OK, ce que la ministre te dit, c'est que c'est une machine tout croche, là. Puis qu'il a dit, depuis quand, c'est quand le dernier projet que vu le jour? C'est des PowerPoint, puis c'est des réunions interminables. Écoute, elle m'a fait une méchante.
Mais là, tu vois, ça t'a fait, ça l'a pas vanté, son ministère. Bon, mais je veux dire, elle vient de s'acheter beaucoup de troubles, là. Parce qu'une ministre qui ne défend pas son ministère, elle aura pas beaucoup de collaboration de ses fonctionnaires. Parce que toute son équipe au ministère ont compris que la ministre n'est pas une alliée, là. Mais elle s'est mis les pieds dans les plats parce que elle a pas utilisé le bon mot. Lorsqu'elle dit c'est pas la mission du ministère, du gouvernement de faire dans le transport collectif, c'est pas le bon mot qu'elle a choisi. Ce qu'elle aurait dû dire, c'est ce n'est pas au gouvernement d'opérer. Dans les opérations.
Mais non, mais ça, on ne demande pas non plus.
Non, mais la mission, ça réfère à quoi? Ça réfère aussi à la vision. Ça appartient au gouvernement. Mais le gouvernement n'en a pas de vision en matière de transport collectif. C'est sûr que, parce qu'avoir une vision, c'est de dire, OK, mettons, d'ici 2030, on veut tel projet à Montréal, tel projet à Gatineau. On veut ça, tu comprends? C'est quoi l'ensemble? Puis plus que ça, nous autres, je pense en 2010 ou même un peu avant, 2008, on avait déposé une politique de transport intermodal. Tu sais, le train, comment t'arrimes le train avec le transport routier.
Je ne crois jamais que le politique en matière de contrat de transport puis d'investissement dans des infrastructures va laisser carte blanche à une agence. Je ne crois pas ça. Parce que tu t'attends des politiciens qui ont une vision, comme tu dis, qu'ils arbitrent entre eux les choix à faire. Parce que c'est pas vrai que c'est une agence avec un PDG. Là. Opérer un système de santé peut-être, là, mais sûrement pas. On ne demande pas de... Mais écoute, la description qu'elle m'a faite tantôt, là, puis il y a des gens qui étaient choqués, qui ont dit, mais vous riez d'elle. Je ris pas d'elle. Je veux dire, j'ai fini par être au Québec site. Ouais. Parce que c'est ça. Tu sais, t'écoutes ça, puis tu dis, c'est vrai, il y a rien qui arrive au Québec.
Mais c'est vrai que Paul et Luc, objectivement, le ministère des Transports a perdu de l'expertise au fil des années, parce que les ingénieurs ont quitté le ministère.
Mais la vision, là...
Ça appartient au gouvernement. Appartient au gouvernement.
Merci à tous les Luc.
Moi, j'allais dire, dans le cadre des discussions sur le transport collectif, là, il est évident là, que compte tenu de l'ampleur du déficit, il va y avoir une coupure de service et il va y avoir des nouvelles taxes. Et pour l'instant, au lieu de s'asseoir à la même table, il s'assoit à une table de ping-pong en espérant que c'est l'autre qui va prendre la charge. Mmh. C'est les maires qui disent, ben là, c'est Québec qui doit nous aider, puis Québec qui dit, je m'en mêlerai pas. Mais on comprend tous là, qu'il y a deux gros problèmes devant nous. Baisse de services, augmentation de taxes et impôts, puis qu'il va falloir que tout le monde gère ça ensemble. On ne peut pas juste envoyer ça dans le cours de l'autre.
Bon, alors, allez jouer dans votre cours. On vous retrouve lundi.
C'est 23.